politique.
C'est quoi le fond vert? Comment est-ce que vous résumez ça?
C'est une excellente question. C'est pas facile de comprendre tout ce jargon-là. Je veux rassurer la population.
La partie communication avec les journalistes, c'était difficile. C'était mieux qu'elle cède à quelqu'un d'autre ses responsabilités. J'ai comme un peu pris une chance sur 25 personnes et je trouve que ma moyenne au bâton est bonne.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était d'abord Marie-Chantal Chassé, l'ex-ministre de l'Environnement, dans l'un de ses échanges plutôt ardus avec les journalistes. Et par la suite, François Legault qui se donne une bonne note pour le choix de ses ministres. On verra si sa propre évaluation est partagée par mes deux compères avec lesquels j'analyse la politique québécoise et canadienne chaque jour. Je les retrouve en cette nouvelle année 2019 et je vous en souhaite une très bonne. Paul Journet, éditorialiste à la presse.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous avez passé un beau temps des fêtes?
De très joyeuses fêtes.
Vous êtes content de me retrouver?
Bien, on s'ennuyait.
Tu t'es ennuyé, Carl? Hein?
Chaque midi avec toi est un cadeau, Bernard.
C'est comme Noël à tous les jours.
Ils sont-tu fins ou ils sont têteux, vous pensez? Bon, Paul.
Oui.
Ça va?
Oui, ça va.
T'es prête, là?
Toujours.
Parce que les 100 jours, veux pas, ça relève de Québec, fait que ça relève de toi un petit peu.
Oui.
Alors, vas-y, je t'écoute.
Les 100 jours?
Oui, les 100 jours.
Ben oui, ça fait 100 jours que le gouvernement Legault est au pouvoir. Il n'y a pas eu de grande surprise. Écoute, ce que le gouvernement Legault a fait, c'est essentiellement ce qu'il avait promis qu'il allait faire.
Ce qui en soi est une agréable surprise, diront beaucoup, non?
Oui.
Parce qu'on était habitué à des gouvernements souvent qui, une fois qu'ils étaient élus, disaient, pour toutes sortes de raisons, souvent financières, on ne peut pas tenir les engagements qu'on a pris.
Ben, tu sais, on peut comparer les 100 premiers jours de M. Legault à ceux de ses deux prédécesseurs. Tiens, prenons un peu de recul rapidement. M. Couillard, en effet, c'était pas ce qui avait été promis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trou dans les finances publiques, disait-il.
Ouais.
On reviendra pas sur ce débat-là. Mais écoute, l'ampleur du trou avait été, me semble-t-il, un peu exagérée. Et donc, ça avait commencé dans le désordre. Ça avait commencé avec un rapport commandé pour sonder la profondeur du trou. Et peu après, il y avait un budget dans lequel il y avait des mesures qui n'avaient pas du tout été promises en campagne électorale.
Notamment,
par exemple, couper de 20 % les crédits d'impôt. Puis ça, c'était le premier budget éclair en juin 2014.
L'augmentation des tarifs de garde là, que jusqu'à 20 piastres par jour. C'était-tu dès le départ, en tout cas?
C'est la date exacte. Puis tu avais eu le deuxième budget qui était encore plus douloureux. Bref, c'est pas ce qui était promis. Et il y avait aussi eu des gaffeurs au début du gouvernement libéral. Souviens-toi, la prime de M. Bolduc, à laquelle il avait touché quand il était dans l'opposition. Mmh. Il touchait c'est une prime qu'il avait rendue possible. Ça avait scandalisé avec raison pas mal de gens. L'Hystério avait eu pas mal de...
C'était la prise en charge des patients, là.
C'est ça.
Ouais.
La prime Bolduc encaissée par le docteur Bolduc alors qu'il était le député Bolduc.
Oui, c'est ça.
Tout est dans tout.
Oui, oui.
L'Hystério aussi avait eu des difficultés par rapport à l'évasion en hélicoptère de détenus. Bref, ça n'avait pas été tout à fait facile.
Les 100 jours de Legault se passent mieux que les 100 premiers jours de Couillard?
Ils sont beaucoup plus ordonnés, mais encore une fois, il n'arrive pas dans le même contexte.
Ben
il a des finances, il a le défi de l'abondance. Hein.
Ouais.
L'ampleur des surplus était même plus grande que ce qu'il avait prévu. Puis quand on compare ça aussi au gouvernement Marois, le gouvernement Marois, c'est un gouvernement qui a commencé avec un fusil sur la tempe. C'était un gouvernement minoritaire. Donc, il savait qu'il était sur un siège éjectable, qu'il avait peu de temps pour faire ce qu'il voulait faire et qu'il n'aurait pas forcément l'appui de l'opposition. Puis, il voulait vraiment faire des changements très, très significatifs. Ça avait commencé, écoute, tu t'en souviens, avec la fermeture de la centrale Gentilly.
L'annulation des hausses de frais de scolarité.
Exact. Aussi, il y avait tout le volet sur l'intégrité qui, lui, était plus consensuel.
Ouais.
Limiter les dons aux partis, etc.
Mm-hmm.
Puis, il y avait eu un recul à moitié par rapport à la taxe santé.
Exact.
Donc, là aussi, c'était dans le désordre complètement. Mais ça s'explique parce que c'est un gouvernement minoritaire, puis aussi parce qu'il y avait vraiment des gros, gros changements. Donc,
Je trouve que Legault, c'est...
Legault, c'est beaucoup plus ordonné.
Ils disent ordonner, là, tu leur donnes
raison? Pour
l'instant,
oui, je leur donne raison avec deux bémols. Le premier, je sais pas si c'est un bémol, mais c'est qu'il a un contexte beaucoup plus facile, comme je te l'ai dit, avec les finances publiques. Et le second, c'est que les changements qu'il apporte, il n'est pas en train de changer le Québec. Là. C'est des très petits changements, du moins pour l'instant. Les projets de loi, les trois projets de loi qui ont été déposés, c'est le cannabis. On a déjà eu ce débat-là. Je suis en désaccord, mais écoute, c'est ce qu'il avait promis. Donc, on peut bien être d'accord ou non, mais il dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il y a aussi les taxes scolaires. Puis enfin, troisième et dernier projet projet de loi déposé, changer le mode de nomination des chefs de police. J'ai des petites réserves, même si ça me semble une bonne idée, mais encore là, c'est un débat assez technique. Là, on n'est pas dans les changements majeurs puis dans les grandes visions pour l'avenir du Québec.
Carl?
Ouais, moi aussi, j'ai quelques bémols. T'sais, on parle que Legault fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, mais il y a quand même deux reculs importants. Notamment, il a reculé sur la commission d'enquête sur les contrats informatiques qu'il réclamait lorsqu'il était dans l'opposition, évidemment. Et évidemment, toute la question d'Hydro-Québec et des trop perçus.
Oui.
Une fois rendu au gouvernement, on a comme oublié ça. Donc, ouais. Ça, c'est deux
reculs.
C'est
vrai qu'il avait déchiré le chemise pas mal là-dessus. Là.
Donc il y avait des lambeaux partout. Là, mais là, on a reculé sur ces deux questions-là maintenant qu'on est au gouvernement. Et puis bon, on est dans l'ordre, mais il y a eu du désordre aussi au sein du gouvernement caquiste.
Est-ce que tu es d'accord avec la décision de renvoyer Mme Chassé, la ministre de l'Environnement?
Ben, je pense que oui, je suis en accord, parce que il semblait évident qu'elle n'avait pas les capacités de livrer la marchandise à ce ministère-là ou à quelconque ministère. Et François Legault s'est dit, tant qu'à traîner un boulet pendant 6 autres mois ou 1 an, c'est pas vrai que je vais traîner un boulet comme ça pendant 4 ans. Donc, je vais gratter le bobo tout de suite, m'en débarrasser. Mais c'est assez extraordinaire de faire ça 3 mois. Oui. Après la nomination, c'est ça qui est assez extraordinaire.
J'ai été surpris par la réponse des libéraux par l'opposition officielle parce qu'ils sont allés sur la parité. Hein, ils ont attaqué Legault sur la parité. Moi, je serais allé plutôt sur le mauvais jugement de Legault. J'aurais dit, c'est le choix de Chassé, c'est la démonstration que François Legault a pris une mauvaise décision, donc ça met en évidence son mauvais jugement dans ce cas-là en particulier.
Oui, je suis entièrement d'accord parce que la parité, c'est un terrain glissant. Moi, je ne dis pas que Mme Chassé a été nommée parce qu'elle est une femme à cause de la parité. Si on prétend ça, ça voudrait dire qu'il n'y avait aucune autre femme qui n'a pas été nommée ministre, qui n'avait pas les compétences pour l'être. Mais de la même façon, je ne vais pas non plus commencer à critiquer la nomination de Benoît Charrette parce que M. Legault avait vraiment pas beaucoup de temps. Il devait trouver quelqu'un qui était un parlementaire aguerri.
Qui a un bon sens déjà, du contenu.
Qui a un bon sens du contenu. Puis M. Charrette, il avait déjà travaillé là-dessus. Peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard. Donc, tant qu'on reste à l'intérieur d'une zone paritaire, là, moi, je ne veux pas qu'on commence à se lancer des accusations de sexiste ou de manque de respect pour la parité.
La fourchette, là, une fourchette de parité, une zone de parité, mettons 40-60 ou 45-55.
Je ne vais pas déchirer ma chemise. La parité est préférable à la zone paritaire, mais si on est à 1 du compte, là, ça va. Mais je suis d'accord avec Carl. Moi aussi, je trouve qu'il a tout à fait raison d'avoir dégommé Mme Chassé. Ça peut sembler évident de dire ça, mais reportons-nous là, juste au bilan de fin d'année. En décembre, il y avait des analystes qui disaient « Ben non, oui, c'est vrai que Mme Chassé, ça fonctionne pas, mais il peut pas la tasser, là. Il peut pas faire ça si rapidement. Il va au moins attendre à l'été prochain. » Ça relevait de l'évidence.
T'avais-tu dit ça, toi?
Non.
Non?
Non, j'ai dit « déjà ». Moi, je m'exclus déjà.
OK, donc...
Moi, je suis en marge.
Donc, il a pris une bonne décision.
Il a pris une bonne décision et d'autant plus qu'elle n'était pas évidente. Elle allait de soi.
C'est parce qu'après coup, on se dit, ben oui, c'est vrai, elle n'était pas bonne, il fallait bien s'en débarrasser. Mais tu as raison de dire que c'est surprenant.
Oui.
Par rapport à ce qu'on a connu par le passé, c'est surprenant.
C'est surprenant parce que c'est sans précédent.
C'est sans précédent?
Puis, ben, si rapidement, il y a eu des ministres qui ont été tassés à peu près qui ont duré eux aussi à peu près 70-80 jours. Daniel Breton, ministre de l'Environnement. Mais lui, il n'a pas été tassé parce qu'on jugeait qu'il était seulement pas bon. C'est-à-dire que le gouvernement a réagi à une crise.
Oui.
Dans le cas de Mme Chassé, on n'a pas réagi à une controverse liée à sa probité, à son éthique, à son jugement. C'est juste qu'on jugeait qu'elle n'était pas bonne avant même de lui laisser le temps.
Sur la question de l'incompétence, là, quand 3 mois on porte jugement, c'est très, très rapide. Comme Paul l'a dit, quand il y a des scandales, des problèmes éthiques ou même des fois des questions de santé ou personnelles, ça peut arriver. Mais que 3 mois plus tard, on dit non, cette ministre-là ne fait pas l'affaire, c'est effectivement sans précédent. Le problème pour François Legault, c'est que là, la barre a été mise. Et la tolérance pour l'incompétence ne semble pas être très élevée. Donc, si le moindrement, ces ministres cafouillent, la pression va venir rapidement sur les autres.
Mais tu as tout à fait raison. Non, mais c'est un méchant message. C'est un message pour les autres ministres.
Oui, mais la barre, elle est quand même, elle n'a pas été placée si haute. Mais bon, écoute,
elle était particulièrement mauvaise, c'est ça que tu dis.
Moi, je le dis en termes plus respectueux, mais ou en termes plus allégoriques, mais disons que quand il y a une question qui lui était posée, c'est comme si un abîme qui s'ouvrait devant elle, puis elle se sentait aspirée vers le vide. C'est, ça allait pas bien, là.
En fait, mais bon, messieurs, on a été très sévère avec Marie-Chantal Chassé, puis avec raison. Ceci dit, je veux quand même mentionner que pour elle, c'est un drame, là. C'est une crise personnelle assez inusitée, très difficile. Et sa réaction jusqu'à maintenant, en public, à tout le moins, elle est très mature. Elle dit les bonnes choses. Ouais. Elle sert le Québec. Mais ça doit faire mal, hein, s'il vous plaît, là, quand François Legault l'a appelé pour lui dire que c'était fini.
Posez la question. Pensez-vous que Marie-Chantal Chassé, si elle avait su que ça allait se terminer comme ça, pensez-vous qu'elle aurait été candidate pour la CAQ?
Probablement pas. Mais bon, écoute, en tant que gérant d'Estrange, je suis spécialisé dans la prédiction du passé.
Ah oui.
C'est pour ça que je dis aujourd'hui que je l'avais vu venir, contrairement à tous les autres.
Oui.
Mais,
Mais ceci dit, moi, je vais vous dire, je réfléchissais hier, puis je me disais, le problème de Marie-Chantal Chassé, parce qu'il faut nommer les choses, c'était son incapacité à communiquer. Et là, ça me dit, moi, ce que ça me dit plus que jamais, c'est que la capacité de communiquer un message, puis de communiquer une politique, puis de donner une réponse claire à des questions parfois techniques, c'est devenu l'une des deux ou trois principales qualités qu'on recherche maintenant chez un homme ou une femme politique.
Ça n'a même pas besoin d'être clair, Bernard. Hein? Je veux dire, écoute, Simon Jolin Barrette, là, c'est pas toujours clair, mais c'est dit avec confiance et avec des grands mots, et ça fait la job.
Mais la capacité de communiquer, on s'entend-tu, messieurs, mais c'est comme devenu une condition sine qua non pour réussir en politique.
Oui, mais tu as deux choses. Est-ce que tu es capable de donner une réponse réelle là, sur les enjeux, ou est-ce que tu fais juste tourner autour du pot pour relayer la propagande gouvernementale, là, puis bien paraître? Une autre analogie qu'on peut faire, quand on dit que M. Legault, c'était pas si évident qu'il allait la tasser, souvenez-vous de M. Couillard et de Sam Ahmad. Évidemment, deux cas très, très, très différents. Sam Ahmad, il était attaqué pour son intégrité. Mais M. Couillard, il avait beaucoup tardé avant de prendre une décision.
Tu as raison.
Pourquoi? Parce que on espère que le premier ministre va agir d'abord et avant tout en fonction des intérêts supérieurs du Québec. Puis l'environnement, on sait que c'est un dossier particulièrement névralgique. Mm-hmm. Et donc, même si tu fais de la peine, et le mot est, c'est un euphémisme, là, à quelqu'un, il faut que tu penses aux intérêts. Sauf que t'es pas, un premier ministre n'est pas que premier ministre, il est aussi chef de parti, chef d'un caucus. Et quand tu tasses quelqu'un trop vite, ça peut créer un malaise à l'interne. Les gens peuvent avoir l'impression que...
Oui, mais le corollaire à ça... Le corollaire à ça, c'est de dire...
On souffre tout à cause de cette personne-là.
Ben, d'une part, puis d'autre part, je n'ai pas été nommé ministre, puis je ferais bien mieux qu'elle. Ça peut devenir un problème au caucus aussi, là.
C'est vrai, mais dans le cas de Sam Ahmad, c'est le contraire qui s'est produit.
C'est le gouvernement.
M. Couillard voulait montrer qu'il n'était pas si loin de ça que ses députés, puis il avait vraiment tardé.
Il y avait de la loyauté
parce que M. Ahmad l'avait appuyé dans la course à la direction. Voilà. Mais tu vois que ça peut être complexe, le processus décisionnel du chef.
En terminant,
ce qu'on me dit à la CAQ, là, c'est que c'était pas nécessairement l'amour fou pour Marie-Chantal Chassé au sein du caucus. Alors, la décision à ce niveau-là a sûrement été facile à prendre pour cette raison de gestion de caucus.
Ah oui, oui. Oui, oui. Puis moi, j'ai entendu des histoires aussi là, par rapport au caucus. Effectivement, c'était pas évident. On va s'arrêter au retour. Carl, tu vas nous parler un petit peu de la scène fédérale. Puis Paul, juste au retour, tu vas nous dire là, qu'est-ce que François Legault faisait à rencontrer ce matin le président de la Banque nationale. Je t'ai demandé de faire des petites vérifications, puis je suis curieux d'avoir la réponse.
Tu l'auras.
Je vais l'avoir, hein, comme d'habitude, après la pause. OK, de retour avec Paul Journet, Carl Bélanger. Paul, juste avant d'aller à Carl, dis-nous pourquoi est-ce que François Legault rencontrait le président de la Banque nationale, M. Vachon, ce matin?
C'était pour parler d'économie. On n'aura pas plus de détails parce que c'était une rencontre privée, mais de la même façon que M. Legault avait rencontré le chef de la FTQ, Daniel Boyer, en décembre. Là, il rencontre un leader du monde des affaires. Il a aussi rencontré Pierre-Marc Johnson pour parler de libre-échange. Rapidement, souviens-toi que M. Legault avait rencontré Régis Labeaume en décembre, puis il l'avait pas dit aux journalistes.
Oui, puis les journalistes n'ont pas aimé ça.
Oui, ben non, puis il avait eu le malheur de mettre en plus une photo sur Twitter, puis on dit « Hey, le premier ministre a une rencontre, c'est pas à l'agenda, on n'est pas avisé, on n'a pas eu la chance de les attendre à la sortie. »
On n'est pas content.
On n'est pas content. Et là, M. Legault constate ça. Son entourage dit, ben, maintenant, on va rendre public ces rencontres. Mais là, on n'est pas content parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais c'est normal qu'il y ait certaines rencontres dont le contenu reste privé.
Les journalistes parlementaires. Mais quand même, je serais curieux. Les journalistes parlementaires sont...
Mais moi aussi, je ne suis pas content.
Sont...
Moi, j'aime bien, je veux toujours en savoir plus. Je suis un journaliste actif.
Éternel insatisfait.
Intéressé par la politique et désireux d'en savoir plus sur ce qu'ils se sont dit.
Très bien. Peut-être ferons-nous, peut-être finirons-nous, dis-je bien, par le savoir. On verra
peut-être
bien.
Pas.
Ou peut-être pas. Carl, parle-nous des travailleurs là, de la GM.
Écoute, juste avant, dernière nouvelle de dernière heure, ça vient juste de sortir. Le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé que les élections partielles dans les comtés de Burnaby-Sud, Outremont et York-Simcoe auront lieu le 25 février.
Oh! Important!
Donc,
important.
C'est très important.
Ah, rappelle-nous vite, pourquoi c'est important, Jack Meetsing. Ben,
Jack Meetsing se présente dans le comté de Burnaby-Sud.
Chef du NPD, s'il passe pas, il est mort.
S'il passe pas, ça sera impossible pour lui de demeurer en poste. Les sondages sont plutôt serrés. On dit que les conservateurs vont tout faire pour le défaire parce qu'ils voudraient un autre chef à sa place. Les libéraux, c'est moins clair quels sont leurs objectifs stratégiques. Au niveau local, on voudrait gagner. Au niveau national, je pense qu'on aimerait bien que Jack Meetsing reste là.
Et rappelle-nous que la raison pour laquelle les libéraux et Trudeau, Justin, aiment bien Jack Meade, c'est que Jack Meade est tellement faible que ça lui permet de ramasser du vote NPD. Et les conservateurs, évidemment, ont intérêt à ce que le vote gauche, centre-gauche se divise. Donc, s'il y avait un nouveau chef que Jack Meetsing, peut-être que le vote au NPD monterait et que ça enlèverait du vote à Trudeau.
Particulièrement s'il y avait un chef qui était capable de récupérer une certaine partie du vote qui a été perdu au Québec, qui est un... Évidemment, on a 16 députés au Québec, mais c'est un maillon faible pour
le parti. Ça existe-tu, ça, au NPD, un chef ou une chef qui pourrait relancer le NPD avant les élections fédérales, aller chercher une partie du vote perdu au bénéfice de Justin Trudeau et peut-être permettre aux conservateurs d'être élus au mois d'octobre prochain au fédéral?
Oui, je pense que ça existe. Évidemment, les vases communicants sont moins clairs que ça, mais je pense qu'il y a des gens qui seraient capables d'aller faire mieux au Québec que Jack Meetsing fait présentement. Évidemment, le nom qui me vient à l'esprit rapidement, ce serait Thomas Mulcair, mais c'est un très, très long shot. Le retour de Mulcair, ça serait assez incroyable.
T'es pas sérieux, Carl, là. Hein? Tu fais des blagues, là.
Écoute, il y a un mouvement au sein du NPD qui veut ramener Mulcair. C'est très sérieux. Ils font des démarches et ils tentent de convaincre les gens qu'il faut se débarrasser de Jack Meetsing pour le remplacer par Mulcair.
Ben
Mulcair,
donc,
lui, est passé à autre chose.
Tu me parles-tu de NPD du Québec ou tu me parles de militants NPD d'ailleurs?
Oh non, c'est des gens ailleurs. Ils ont leur groupe Facebook, sont très actifs. Ils font des démarches.
Mais ça n'arrivera pas.
Ils ont vu le retour de Gilles Duceppe et ils se croisent les doigts.
Ah, ben, c'est
ça n'arrivera pas. Mais parlant de Mulcair, Outremont, c'est aussi un des comtés. Hein,
ben
et
oui.
Pour le NPD, c'est très symbolique parce que Mulcair l'a emporté dans une partielle en 2007, l'a gagné à nouveau en 2008 et c'était la base qui a permis à la vague orange d'être déclenchée en 2011. Donc, les libéraux vont vouloir tenter de le récupérer parce que ça serait un coup dur pour le NPD au Québec là, que ce comté retombe dans les mains libérales.
Retombe parce que ça a été... c'est un comté rouge. A priori, Outremont, c'est un comté libéral.
Rouge foncé. Et là, la question clé, c'est peut-être un comté Mulcair. Mais pour le NPD, c'est quand même le comté de l'ancien chef. Donc, c'est très fort symboliquement.
Tu as absolument raison. Alors, j'allais te dire, parle-nous un petit peu de l'usine de GM à Oshawa. On sait que les travailleurs, à travers leur syndicat Unifor, ancien syndicat TCA, le travailleur canadien de l'auto qui s'appelle maintenant Unifor, ils veulent relancer l'usine et la direction de GM leur a dit non.
Mais oui, ils ont rencontré, le syndicat et la direction de GM sont rencontrés hier et le président d'Unifor, Jerry Dias, est sorti de la rencontre furieux. On a un extrait sonore de sa réaction à la sortie.
And I'm here saying, and I'm saying at the General Motors, and you better listen, because we are not acknowledging the closure of our Oshawa plant. We are not going to allow you to make a decision that's going to negatively impact and destroy our community of Oshawa. Because Canadians understand it's not only about our jobs in Oshawa, it's about us as a nation.
OK, il n'est pas content, là, le président d'Unifor. Il dit qu'on n'accepte pas la décision donc, de la direction de GM, donc on va tout faire pour la garder encore ouverte, cette usine-là. Mais franchement, Carl, dis-moi, là, tu connais quand même un peu le mouvement syndical, là. Il fait de la politique, Darius, là. Il pense pas vraiment que l'usine de GM à Oshawa va rouvrir, là.
Ben, écoute, il fait ce qu'il a à faire pour ses membres. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'évidemment, ils tentent de la garder ouverte, cette usine, et la première chose qu'ils ont fait après cette conférence de presse de Jerry Diaz, ben, les travailleurs sont sortis de l'usine, arrêt de travail, sont en arrêt de travail également aujourd'hui, donc l'usine ne fonctionne pas actuellement.
Drôle de façon de garder l'usine ouverte. Hein, drôle de façon de garder l'usine ouverte que de la fermer, non?
C'est un peu paradoxal, mais il essaie de mettre de la pression, puis écoute, ce qu'a dit aussi Jerry Diaz, c'est qu'il était vraiment dégoûté par le silence des gouvernements. Et à ce niveau-là, je vais lui donner un point. Le gouvernement Doug Ford en Ontario a lancé la serviette immédiatement. Et du côté de Justin Trudeau, on peut pas dire qu'on s'active grandement pour tenter de sauver l'usine de GM à Oshawa ou de trouver quelque chose d'autre à faire. Mais là, toutes les options suggérées par le syndicat, comme la prolongation de la durée de vie de la Chevrolet Impala ou de la Cadillac XTS, qui sont des modèles qui sont là, ou même le rapatriement de la production qui est prévu pour le Mexique vers Oshawa, GM rejette ça catégoriquement, dit que ce sont pas des façons de faire qui seraient rentables pour la compagnie. Et bon, Jerry Diaz dit ça, peut-être que ce serait pas rentable, mais ça serait pas un gros préjudice économique pour GM. Et on pourrait penser, ça pourrait acheter du temps pour sauver l'usine à long terme.
Ouais, OK. Ben écoute, si t'as du neuf, tu nous en parleras, là, mais j'ai l'impression que on se dirige.
Là, il lance une campagne de pub, hein. Unifor lance une grosse campagne de pub. On n'appelle pas un boycott, mais on passe proche.
On parle des sénateurs demain, Carl, OK? Parle-nous un peu des sénateurs, de ce projet un peu farfelu là, de musée. On en dira davantage de nos auditeurs demain. Carl Bélanger, Paul Journet, merci.
Merci.
Salut.